La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui répondent aussi à toutes vos questions en direct.
Avec cette mobilisation un peu partout en France, aujourd'hui 70 villes, 510 000 manifestants hors Paris, 250 000 dans la capitale selon la CGT. Alors où nous parlons 18h34 et ces violences qui ont émaillé le cortège. Je voudrais qu'on entende, si vous le voulez bien, Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise. Voilà ce qu'il a dit de ces rassemblements.
Je pense que c'est une date dans l'histoire sociale du pays, que cette mobilisation aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que la direction de la CGT a appelé aux marches ce samedi-ci. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que un certain nombre de professions clés de la vie du pays, transport, éducation, appellent à la reconduction de l'action. Donc on est entré dans un moment dense d'action et de lutte. C'est une mobilisation qui va être un bras de fer.
Catherine Ney. Ça y est, c'est le début d'une véritable bras de fer, comme le dit Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon fait du Mélenchon. Il annonce la révolution, 1 million de gens dans les rues depuis qu'il est élu au Parlement. Et puis, il n'est jamais le leader d'un mouvement. Il suit, il n'est pas l'organisateur de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un grand mouvement? Moi, je mesure mal, enfin, par rapport aux grandes grèves, manifestations qu'il y a eu, ne serait-ce que en 2010, sur la réforme, où au moins, c'était une réforme claire. On savait, c'était on allongeait la durée de l'âge, plutôt, de 60 à 62 ans. Là, on savait où on allait. Les Français savaient pourquoi ils manifestaient. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus vague. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? On a tellement dit qu'il devait y avoir du monde. Oui, c'est vrai, il y a du monde. Bon, alors, bon, et on sait très bien
c'est
que...
C'est pas ramarré, c'est ce que vous nous dites.
On est très loin du raz-de-marée.
On est très loin du raz-de-marée, il y a du monde.
Très loin.
Il y a du monde. Et puis, ça va durer, oui, puisque la grève va être reconduite jusqu'à lundi. Bon, on se disait bien que ça n'allait pas s'arrêter le vendredi ou le samedi. Donc, le problème, c'est après lundi, qu'est-ce qui se passe? Oui.
Alors, les syndicats disent Paris réussi, Gérard Carrérou, jusqu'à présent.
C'est assez normal que les...
Ils sont dans son rôle. Tout le monde est dans son rôle, soyons très clairs.
Les organisateurs ont toujours tendance à être contents de leur organisation, donc ça, c'est un peu normal. Moi, je vais essayer d'être serein. Enfin, je veux dire, j'ai regardé...
C'est ta nature.
Comme mes camarades, oui, j'ai regardé pendant toutes ces heures.
Serein et bonhomme.
Toutes ces heures, j'ai regardé, effectivement, les chaînes qui montraient en direct. Bon, les diverses chaînes pour essayer, justement, d'avoir un panoramique, comme on dit. Honnêtement, à mon sentiment, ce n'est pas un raz-de-marée et ce n'est pas cette espèce d'apocalypse que certains avaient cru pouvoir prédire dans les dernières semaines. Ce n'est pas 1995, ce n'est pas 2003, ce n'est pas 2010. 2010. La chance des vieux, c'est d'avoir vécu toutes ces dates et d'avoir vu de visu. Donc, alors, est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Pas du tout. Il y avait du monde, vous avez donné des chiffres.
Et de la détermination.
Il y avait du monde. Alors, il y avait de la détermination, parce qu'il y avait beaucoup de... Les pourcentages de grévistes dans effectivement, à la SNCF, à la RATP, dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs sont très importants. Très, très important. Le nombre de manifestants dans un certain nombre de villes de province, j'ai été là aussi, j'ai vu des 10 000 ici, 20 000 là, 30 000 ailleurs. C'est important selon l'importance de ces villes. Certaines villes moyennes, pas des grosses villes, ont eu quand même énormément de monde. Et puis, si on ajoute Paris, on n'a pas encore les chiffres pour Paris, mais en gros, ça fera 600 et quelques mille personnes. C'est beaucoup, c'est deux fois plus que les 300 000 gilets jaunes de la première journée des gilets jaunes.
C'est bon, quand même là où on peut comparer, parce que c'est effectivement les événements les plus récents.
Mais je dirais, pour finir là-dessus, provisoirement, globalement, c'est un peu un match nul. Le gouvernement n'est pas enfoncé, le gouvernement n'est pas défoncé, il reste des marges de manœuvre pour négocier.
Tout ce qui va faire la différence, Charles Villeneuve, c'est la durée de ce mouvement. Alors, on annonce Édouard Philippe, prise de parole milieu de semaine prochaine.
Mais il l'a pris, la parole, tout à l'heure.
Oui, mais il la reprendra mercredi prochain.
Il vous a adressé un message, d'ailleurs.
Ah, personnellement?
Oui, tout à fait. Puisque vous êtes là, vous, avec vos oreilles, pour écouter et analyser. Il vous a adressé un message. Il a remercié les syndicats d'avoir bien tenu la manifestation.
Absolument.
Ce qui veut dire que,
enfin, c'est une main tendue.
Bien sûr. Entre le 8 décembre, ils diront, sans doute le Premier ministre, mais pas seulement, ils diront quel est l'état de la réforme qu'ils vont annoncer. En tout cas, le mur qu'on avait annoncé, si vous voulez, infranchissable de manifestations et de grèves, il est fissuré. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il adresse un message aux syndicats, il les remercie d'avoir tenu tout ça. Parce que, évidemment, moi je fais un pari, et d'ailleurs, non pas celui de Mélenchon ou de la CGT, mais je pense qu'il n'y avait pas plus de 50 000 personnes à Paris. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, on verra les chiffres. Mais les syndicats pourront se targuer de cortèges bien remplis, d'une grève suivie. Mais c'est insuffisant.
Insuffisant, dit Charles Villeneuve.
Pour que le gouvernement plie.
Pour qu'il plie les Gaules, oui.
D'ailleurs, il y a un sondage qui paraît que pour 70% des Français, la réforme se fera.
Alors, on voit ça dans un instant, si vous le voulez bien, dans quelques secondes avec les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Et les auditeurs aussi avec Kevin de Nantes. Bonsoir Kevin, bienvenue au micro d'Europe 1. Kevin, vous êtes enseignant, vous ?
Oui, je suis enseignant. Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Oui, je suis enseignant solidaire du mouvement, mais pas forcément partisan du statu quo. Bon, en fait, je voulais vous appeler ce soir parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on sorte par le haut de cette crise. Ah, je vais proposer une idée comme ça de méthodologie en disant on met un stop là maintenant. On demande à tous les partis politiques, les grands partis politiques, ceux qui sont représentés au Parlement, de soumettre des contre-projets. On fait évaluer tous ces contre-projets et le projet initial par la Cour des comptes. On organise des débats contradictoires et à la fin, on fait voter les Français. Et si possible, on les fait voter au jugement majoritaire, c'est-à-dire que chaque électeur va évaluer chacun des projets en lui attribuant une mention très bien, bien, assez bien. Et à la fin, on sort, on retient le projet de retraite parce que c'est quelque chose qui nous engage le plus consensuel finalement dans le français. Quel que soit le projet qui soit retenu, ouais, un référendum. En fait, nous, on appelle ça dans l'association, je fais partie, un préférendum.
D'accord.
On vote sur plusieurs projets.
Alors, merci beaucoup, Kevin, très inspiré depuis Nantes. Et Kevin, âgé de 32 ans, qui est enseignant, et on sait combien c'est compliqué pour les enseignants de faire grève. C'est 90 euros de perte par jour. Charles Villeneuve, c'est une possibilité ?
En tout cas, là où je trouve que notre camarade Kevin a une très bonne idée, Kevin, c'est de faire évaluer justement la contre-proposition, ou toutes les propositions, par la Cour des comptes. Je trouve notamment que l'une des pierres angulaires de cette réforme, c'est le financement de la réforme. Et bien évidemment, d'ailleurs, c'est ce qui pose problème, on le sait, puisque le corps...
le Conseil d'orientation des retraites.
Exactement, a précisé que le déficit serait en 2025 entre 8 milliards et 20 milliards.
Voilà, c'est aussi là-dessus que s'appuie le gouvernement. Catherine Ney.
Oui, surtout que la première injustice d'une réforme des retraites, c'est quand elle n'est pas financée et qu'on peut envoyer un problème. Mais quand... ce professeur très courageux dit on va faire évaluer. Mais s'il fait évaluer par la Cour des comptes, la Cour des comptes, elle regarde quoi ? Si ça coûte trop cher pour l'État et si l'État est capable de financer ses retraites. Bon, prenons le cas des professeurs qui en ce moment se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et c'est vrai que si on fait une réforme paramétrique, c'est-à-dire que, et par points, ça veut dire que ça ne seront plus les 6 dernières années de leur vie professionnelle qui seront comptées, mais du début jusqu'à la fin, donc ce qui veut dire qu'ils gagneront moins. Si on écoute ce jeune professeur qui dit « essayons », la Cour des comptes dira « mais qu'est-ce qui coûte le plus cher ?» Parce que Blanquer a déjà donné une réponse. Il dit qu'il faut que les professeurs soient mieux payés. Mais ça va coûter quel argent qu'ils soient mieux payés ? Moi, je trouve qu'ils sont mal payés. Je suis tout à fait pour que les professeurs soient mieux payés. Et qu'en plus, quand ils débutent, c'est peut-être le moment où c'est le plus dur. Hein.
Absolument.
Bon. Et donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais combien ça coûte ? Parce que si on fait aussi cette réforme, c'est aussi pour qu'elle soit finançable. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que si on commence à mieux payer, plus juste. Mais si elle est plus juste, elle coûtera plus cher, sauf à faire travailler plus longtemps les professeurs.
Oui,
voyez,
alors, €600, hein, c'est ce que craignent les enseignants.
Catherine, tu as raison, il faudra les deux. Il faudra maintenir un certain nombre de régimes particuliers, parce qu'on parle des régimes spéciaux, en fait, ceux qu'on voudrait véritablement faire disparaître peu à peu, c'est la SNCF et la RATP. Oui. Les autres, les avocats et les professions, les enseignants, les infirmières, tout ça, il faudra trouver des adaptations.
Mais c'est ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs, Gérard Carrère. Vous avez entendu Christophe Castaner qui a dit aux policiers hier,
je retiendrai de ce qu'a dit Kevin une chose, il dit qu'il faudra une sortie par le haut. On voit déjà, après cette journée d'aujourd'hui, on voit les éléments de la sortie par le haut, c'est-à-dire d'une négociation qui débouche. Et il y en a plusieurs. Il y a la pénibilité, il faudra lâcher un petit peu de choses sur la pénibilité, pour faire plaisir à la CFDT, ça c'est clair. Il faudra, sur les femmes, remettre un peu d'ordre, parce qu'il y a, effectivement, les femmes seraient perdantes en l'état. Et puis, troisièmement, il y a un truc formidable, c'est la transition. C'est-à-dire à quel moment on met en œuvre la réforme. On avait parlé du grand-père, ça ne sera pas le grand-père, mais ça sera le demi-grand-père. Autrement dit, ça sera à partir de 2030 ou 2035.
Voilà. On se retrouve dans une seconde. Charles, je vous donnerai tout de suite la parole. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Nathalie Lévy autour de vous ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Gérard Carrérou, lundi, ce sera quand même un premier tournant, non ?
Alors d'abord,
non, je dis ça parce que, pardonnez-moi, lundi, on aura quand même les gens qui vont devoir retourner travailler. Là, ils se sont organisés, RTT, etc. Lundi, on fait comment ?
Alors d'abord, lundi, il n'est pas sûr que ça soit tout à fait fini. Parce que pour autant, on a l'air de... Enfin, il me semble qu'on va aller vers quelque chose qui ne durera pas 3 semaines. Ça, c'est clair. Mais lundi, il est possible que ça soit encore un jour de grève, effectivement. Demain, ça le
c'est
sera.
Prévu. C'est prévu. Lundi,
c'est prévu,
inclus.
Voilà. Donc, mais il y a quand même quelque chose... quand on a fait le bilan tout à l'heure, il y a un élément qu'on n'a pas abordé. À mon avis, c'est quelque chose qui abîme beaucoup la journée du côté des manifestants. C'est les casseurs. Vous savez, les casseurs, alors vous me direz, on est habitué maintenant, parce qu'il ne peut plus y avoir une grande manifestation à Paris sans qu'il y ait des déprédations, des casseurs, etc. Mais finalement, ça abîme. Ces gens-là, je ne sais pas d'où ils viennent, et je ne sais pas pour qui ils travaillent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils contribuent à abîmer la manifestation dans laquelle ils s'insèrent comme des sangsues.
Mais c'est ce qu'ils veulent.
Oui, non, mais ils abîment fortement. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont repartis, des gens sincères, qui vraiment voulaient manifester parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la retraite, etc., et qui sont repartis, et qui repartent, parce qu'ils ne sont pas encore tous repartis, mais à l'heure où on parle, qui repartiront furieux avec le sentiment qu'on leur a, une fois de plus, volé leur belle journée de manifestation, etc. Il faudra un jour ou l'autre trouver le moyen d'éviter. Parce que c'est un produit spécifiquement français, les casseurs.
Oui, mais justement, ce qui abîme le plus, c'est qu'il y a des casseurs, on voit qu'ils abîment beaucoup de choses, qu'ils brûlent des voitures, qu'ils cassent des magasins, et on ne sait jamais, alors on dit, il y a des arrestations, on ne sait jamais s'ils ont été condamnés, il n'y a aucune publicité de savoir est-ce qu'ils ont fait condamner à 10 mois de prison, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait rien. Donc pour les gens, c'est l'impunité totale. Certains font de la prison, sont en ce moment en prison, et on ne le sait pas, et je ne sais pas pourquoi. Et moi j'avais même demandé à la garde des Sceaux, elle me dit « Ah mais je pourrais vous le dire si vous... » Bon, mais il se trouve qu'on ne le dit pas. Et ça crée un malaise dans l'opinion, on a l'impression qu'on peut aller casser, et vraiment, pas vu, pas pris.
Charles Villeneuve, les mobilisations, les violences, on a vu depuis les Gilets jaunes aussi, ce que ça a engendré sur la manière après dont le gouvernement agissait.
C'est-à-dire
soit les mobilisations et la violence finalement le font céder, durablement, comme ça s'est passé d'ailleurs dès décembre 2018 avec l'enveloppe.
D'abord, tout à l'heure, Gérard, à l'instant, disait on ne sait pas qui c'est, on sait qui c'est. La plupart ont été identifiés, par exemple, ceux qui ont fracassé, brisé la stèle du maréchal Juin, le chef de l'armée d'Italie. On sait que ce ne sont pas des Black Blocs, ce sont des ultra-jaunes. C'est un renseignement que m'a donné le service de renseignement, justement, de la préfecture de police.
C'est-à-dire des jaunes radicalisés.
Oui, c'est ça.
Mais tu vois, c'est parce que tu as tes entrées à la préfecture de police que toi, Charles Villeneuve, arrives à le savoir. Mais je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient le dire. Il n'y a pas une autorité de la préfecture de police qui vient le dire pour rassurer les gens.
Oui, mais je ne suis pas le porte-parole de la préfecture de police. Donc,
mais je n'ai jamais dit ça. Donc, je dis que tu fais du journalisme et tu apportes à
l'auditeur. Vous êtes allé chercher l'information.
J'ai envie d'avoir. Et on te remercie pour
d'être allé chercher l'information.
On en attrape très peu. En fait, le problème, c'est qu'on en juge très peu parce qu'on en attrape très peu. On en attrape ici une dizaine ou une douzaine à chaque manifestation de ce genre.
Non, ils ont eu notamment par rapport, si tu veux, à la traduction devant les magistrats, ils ont un problème, c'est qu'ils cassent, ils ont brisé quasiment la plupart des caméras, des vidéos. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les policiers se servent de plus en plus de drones pour les identifier, les films avec des drones. La mise en place, par exemple, du service d'ordre cette nuit, tous ceux qui, ce matin, se sont promenés au milieu de ce service d'ordre, ce que j'ai fait en même temps que d'autres journalistes de la rédaction, on s'est aperçu qu'ils avançaient beaucoup avec des drones. Bon, il n'y avait pas tellement de VBRG. C'est la raison pour laquelle, contrairement...
Tu les as vus, les drones ?
Oui.
Ah bon ?
Notamment aux alentours de l'Élysée et pas loin du ministère de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle
ça, c'est de l'information.
Ça, c'est de l'information.
Oui. Des drôles de français, en plus. Parce qu'on commence à en avoir.
Non, ça n'a rien à voir avec
présent. Tous nos drones militaires
n'ont rien à voir avec les drones militaires. Ce ne sont pas des drones militaires.
C'est des tout petits drones, comme on en trouve, même pour les gamins dans les jeux.
Absolument. Voilà.
Voilà. Alors, sur les violences, mais du coup, il y a les violences, il y a lundi. Il y a l'accumulation de ce qui va se passer ce week-end. Et il y a samedi prochain. Attendez, samedi prochain, nouvel appel à mobilisation.
Oui,
il l'a dit, Jean-Luc Mélenchon.
On va voir ce que va annoncer le Premier ministre.
Oui, mais Nathalie, la date clé, c'est l'annonce du dispositif au lendemain du 8 décembre.
Il y a des lois qui partent et le Premier ministre en
parle. Et tout à l'heure, j'avais une discussion dans la rédaction avec Michaël Darmon, qui est au service politique et qui a beaucoup d'informations, qui va d'ailleurs à l'information. Lui aussi, notamment auprès du Premier ministre, auprès de l'Élysée, etc., et qui, lui, est intimement convaincu, je rapporte ses propos, en tout cas, intimement convaincu qu'ils ont déjà complètement tout le dispositif, celui dont tu parlais tout à l'heure, il faudrait faire quelque chose pour les femmes, quelque chose pour ceci, pour
donc, par corporation et par... donc par corporation, par secteur, etc.
Et il est vrai, et il est très vraisemblable que ça va satisfaire, ça, en tout cas, ça va calmer sans doute les esprits, c'est le but. Et pas mal d'angoisse aussi, d'anxiété.
Donc vous êtes relativement optimiste pour la semaine prochaine.
Je ne suis pas pessimiste comme on aurait pu l'être en écoutant tout ce qui se disait au début de la semaine dernière.
Pardonnez-moi, je me fais l'avocat du diable. Moi, je ne comprends pas pourquoi, après 2 ans de concertation, de réunion autour de Jean-Paul Delevoye, on attend de voir cette mobilisation, de voir ces violences.
C'est peut-être une stratégie.
C'est peut-être une stratégie, alors.
Oui.
C'est peut-être une stratégie. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il n'est pas à un tournant là, de son quinquennat.
C'est une stratégie qui consistait, certains l'ont décrite, certains sociologues, une stratégie qui consiste à dire il faut laisser la chienlit d'une certaine manière, il faut que les gens évacuent leur colère et après on discute.
Voilà.
Alors, mais il n'est pas dupe, il sait très bien que ce qui est en jeu, c'est sa réélection de 2022. D'ailleurs, dans les cortèges, tout à l'heure vous avez cité Mélenchon, il y avait tous ceux qui ont été battus en 2017 par Emmanuel Macron, qui sont là et qui, évidemment, espèrent beaucoup.
Elle est grande voix.
Sauf Marine Le Pen.
Elle n'était pas là,
Marine. Mais qui était là par l'esprit, puisqu'elle l'avait dit. Merci beaucoup, les grandes voix, en tout cas, d'être venues dans ce studio ce soir. On va suivre de très près, dans un instant, avec Sébastien Krebs, ce qui se joue encore dans les cortèges, à l'heure qu'il est.
À suivre, Nathalie Lévy, donc, le journal de 19h.
Les prévisions de trafic aussi. Et puis, on fait un point d'étape à Paris, notamment, et à Toulouse.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir, sur Europe 1.